Bonjour à toutes et à tous. J'ai le message aujourd'hui sur le sujet sur l'endurance. Ça s'appelle l'endurance dans l'épreuve. Dans Matthieu 24 et dans Marc 13, Jésus nous donne une vision prophétique de la situation dans laquelle le monde se trouvera juste avant le retour de Jésus. De nos jours, nous voyons autour de nous beaucoup de choses que Jésus avait prédites. Mais Jésus a aussi donné des directives aux croyants pour qu'ils puissent survivre dans de telles situations. La condition requise peut se résumer en un seul mot, endurance. Nous allons regarder des passages en particulier. Dans chaque situation, Jésus parle de la rupture des relations et de l'ampleur de la persécution des chrétiens. Nous allons d'abord lire Matthieu 24, versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour, selon la version, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le désordre et le manque d'amour ou manque de charité vont de pair. Trop souvent, nous associons l'amour à une liberté sans inhibition qui n'a pas besoin ni de loi ni de discipline. Mais ceci est faux. L'amour et la discipline marchent main dans la main. Quand la discipline et la loi ne sont plus respectées, l'amour se refroidit. Il est important de voir dans ce message, dans ce passage, que le mot amour est en grec agapé, qui s'applique essentiellement à l'amour des chrétiens. Jésus ne parle pas de l'amour du monde qui se refroidit, mais plutôt de l'amour des chrétiens qui se refroidit. C'est une situation beaucoup plus grave. Après avoir prédit ce manque d'amour, Jésus ajoute cette exhortation dans le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour être sauvé, nous devons aller jusqu'au bout. Et ceci demande l'endurance de notre part. Dans Marc 13, versets 12 et 13, nous pouvons lire une prédiction similaire ainsi que la même exhortation. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Une fois de plus, le tableau est bien triste. La trahison et le manque de loyauté se trouvent au sein des relations familiales et les chrétiens sont haïs par tout le monde. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit que nous devons être persévérants. Il y a quelques versets qui parlent de l'endurance en général. Regardons d'abord dans le Romains 5, versets 1 à 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Par définition, nous parlons de quelque chose qui forme notre personnalité. Nous pouvons nous réjouir, nous glorifier dans la tribulation, car elles produisent l'endurance. Et l'endurance, en retour, produit un caractère éprouvé. Mais ce n'est pas seulement dans les relations avec les autres que les chrétiens sont en situation de danger quant à l'endurance. La parole nous avertit à maintes reprises que certains abandonneront Dieu. Un des thèmes majeurs dans l'Épître hébreu est le danger de renier notre profession de foi. Nous allons regarder ce passage biblique dans Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On pourrait dire peut-être que la foi suffit pour s'approprier les promesses de Dieu. Mais ceci n'est pas vrai. Nous avons besoin de foi et d'endurance. Dans Hébreux 10, 35-36, nous lisons « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Si nous avons fait la volonté de Dieu et nous n'avons pas encore reçu ce qui a été promis, nous avons besoin de persévérer. Quand nous faisons la volonté de Dieu et que nous réclamons la promesse, il peut y avoir un temps d'attente avant de recevoir la promesse. Il y a des personnes qui font la volonté de Dieu, qui réclament la récompense, mais qui ne persévèrent pas. Ils disent alors, ça n'a pas marché. La vérité est que la foi ne peut simplement pas fonctionner sans l'endurance. Dans Hébreux 12, 1, Paul dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché que nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Avant de commencer une course, une randonnée ou une balade, un coureur ou un randonneur vide ses poches, il met le vêtement le plus léger, le mieux adapté à l'épreuve. Il ne se charge pas inutilement. Il sait que le moindre poids supplémentaire va alourdir, l'épuiser et ralentir dans sa course. Le poids ne veut pas nécessairement dire le péché. Tout ce qui nous demande trop de temps ou trop de tension peut devenir un poids qui nous empêche de donner le meilleur dans notre course. La course qui nous est proposée n'est pas un sprint, mais c'est une course longue et lente qui demande l'endurance. Beaucoup de personnes commencent leur vie chrétienne dans un élan formidable. Et quelques temps après, ils se retrouvent essoufflés. En dehors de la course, ils sont au bout. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste 9:11, la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant. Ce n'est pas la rapidité, ni la force qui compte, c'est la persévérance. Dans Jacques 1:2, nous lisons, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Est-ce que vous faites cela? Si votre réponse est non, vous devez le faire. Nous devons louer Dieu parce qu'il nous trouve digne de passer par les épreuves que nous rencontrons. Par ailleurs, souvenez-nous que l'épreuve est toujours pour notre propre bien. Jacques continue en expliquant ce qui semble tout d'abord être un paradoxe. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Jacques veut dire que nous traversons l'épreuve en restant fermes. Tout notre caractère et notre personnalité seront ainsi forgés. Nous serons alors des chrétiens accomplis, parfaitement affinés, et toutes les facettes de notre personnalité auront été examinées. Les relations fraternelles proches, un petit groupe de personnes qui se retrouvent chaque semaine, sont un bon terrain d'épreuve pour notre caractère. Quelqu'un a dit que la communion fraternelle, c'est enlever le toit et abattre les murs. Ça ne nous dérange pas enlever le toit puisque Dieu voit au travers de toutes les façons. Mais nous sommes plutôt ennuyés quand il s'agit de faire tomber les murs et nous exposer aux autres chrétiens. Dans 2 Corinthiens 12, Paul souligne le signe distinctif qui marque le véritable apôtre. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. La plupart d'entre nous passons rapidement sur la qualification de l'endurance pour nous concentrer sur les miracles. Mais Paul dit que le premier signe qui marque un ministère apostolique, ce ne sont pas les miracles, mais la patience, la persévérance et l'endurance. L'apôtre est celui qui tient bon quand tous les autres baissent les bras. Juste avant son exécution par les Romains, Paul écrit ceci à Timothée, c'est dans le verset 10 et 11. « Car Dema m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luxel est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Un peu plus loin, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit imputé. De Timothée 4:16. Tout juste à la fin de sa vie, Paul a été abandonné en prison par certains de ses proches collaborateurs. Ils manquèrent de persévérance. La marque la plus frappante de Paul en tant qu'apôtre était son endurance. Quelles sont les épreuves par lesquelles nous passerons? C'est dans Matthieu 13, la parabole bien connue du semeur qui sortit pour semer. Dans cette parabole, Jésus parle de différents types de terres et chaque terre représente une personne qui entend la parole de Dieu. Il décrit comme une partie de la semence tombe le long du chemin et les oiseaux le mangent avant qu'elle n'entre dans la terre. Une autre partie tombe dans les endroits pierreux et dans les épines. Jésus explique quel type de personne est représentée dans chacune de ces situations. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La semence ne trouve pas de place dans la vie de cette personne. Elle est là sur la terre, à la merci des oiseaux qui viendront la manger. Puis Jésus parle de deux types de personnes qui ont reçu la semence et qui ont commencé à porter des fruits. Cependant, les fruits ne sont pas finalement développés parce que ces personnes n'ont pas pu faire face aux épreuves. Le premier groupe est celui des endroits pierreux, le second, celui des épines. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès qu'il survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Enfin, il y a simplement deux types de tests. L'un, c'est quand la vie est trop difficile. L'autre, quand la vie est trop facile. La première épreuve est la persécution, la seconde, la prospérité. Certaines personnes ne peuvent pas faire face à la persécution, d'autres ne peuvent pas gérer la prospérité. Certaines personnes peuvent affronter la persécution, mais quand Dieu leur bénit avec une belle maison, des voitures, un bateau, des choses deviendront leur préoccupation première plutôt que le royaume de Dieu. D'autres reçoivent la parole avec joie. Ils parlent en langue, dans leur témoignage, en paix partout, ils prophétisent, bref, ils baignent dans la bénédiction de Dieu. Mais quelques mois, quelques années plus tard, on n'entend plus parler d'eux, ils n'ont pas su faire face à l'opposition, ils se sont flétris. La vérité est que nous aurons à endurer les deux épreuves. Nous serons testés par la tribulation et aussi par la réussite. Et nous devons résister dans les deux situations. Surmonter l'épreuve, c'est ça. On peut donc trouver quatre principes ou propositions bibliques qui nous montrent comment surmonter l'épreuve. La première est que nous nous engageons réellement, sans réserve, et de tout notre cœur avec Jésus. C'est ainsi que devrait être une marche chrétienne normale. Il est écrit dans les Actes 11, 23, ce que Barnabas dit à nouveau au groupe de chrétiens dans la ville d'Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Un cœur ferme, voilà la phrase clé. Cela veut dire que vous devez fermement décider de rester attaché à Dieu, quoi qu'il advienne. Si vos amis abandonnent, vous persévérez. Même si votre famille abandonne, vous continuez. C'est un tel cœur résolu qu'il nous faut. Ensuite, dans Actes 14, 22, nous voyons Paul et Barnabas exhortent de nouveau convertis de la même manière, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les chrétiens ont besoin de savoir qu'il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans le royaume de Dieu que celui de tribulation. À ce propos, on comprend le royaume de Dieu de deux façons. Il y a le royaume futur que Jésus apportera et établira, mais il y a aussi le royaume dans lequel nous entrons et dans lequel nous vivons maintenant. Et c'est par beaucoup de tribulations que nous entrons dans la vie du royaume. Nous serons soumis aux pressions dans tous les domaines de notre vie. C'est notre devoir d'avertir les personnes qui se donnent à Jésus et de leur dire que si elles entrent dans la vie du royaume, il y aura des tribulations et des oppositions. Ce n'est pas juste de dire aux nouveaux convertis que s'ils donnent leur vie à Jésus, tous leurs problèmes seront résolus. En fait, ils vont avoir des problèmes en tant que chrétiens dont ils ne tenaient pas compte auparavant. Un cœur résolu, ferme pour Jésus, sera nécessaire pour faire face à ces épreuves. Le second principe de l'endurance se trouve dans Hébreux 11, 27. Ce texte fait référence à Moïse qui a grandi en Égypte et qui était destiné à être héritier du trône en tant que fils de fille du pharaon. Il avait de l'éducation, de la richesse, d'un privilège social, bref, tout ce que le monde pouvait lui offrir. Mais à l'âge de 40 ans, il tourne le dos à tout cela, s'enfuit de l'Égypte et passa les 40 années suivantes à garder un troupeau de moutons dans un désert perdu. Voici ce que le verset dit de Moïse. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est ça l'essence même de la persévérance, voir celui qui est invisible. Quelle est la faculté que nous permet de voir ce qui est invisible? La foi. La foi est liée à ce qui est invisible. Elle est, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Si vous et moi, nous allons tenir bon, le monde invisible devra être plus réel que le monde visible. Sinon, nous allons aimer le monde et son système et tourner le dos aux réalités cachées du royaume de Dieu. Dans Corinthiens 4, dans 2 Corinthiens, versets 4, 17 et 18, nous lisons « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. » Il est important de noter qu'au travers de l'affliction, le plan de Dieu se réalise pour nous uniquement si nous gardons nos yeux fixés sur ce qui est invisible. Ce qui est invisible est éternel et ne change pas. Prenez temps avec votre Bible, lisez-la, méditez-la, vivez-la, croyez-la et demandez au Saint-Esprit de rendre ces paroles réelles pour vous. Elles deviendront alors tellement réelles que rien au monde ne pourrait vous tenter d'être déloyal avec Jésus-Christ. Ne me comprenez pas mal, je crois qu'il faut pleinement profiter de la vie, mais je ne vais pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Tout ce que j'ai, je le dois à mon Père. Je suis devenu son enfant, l'héritier de Christ. Je suis reconnaissant pour sa bonté et sa grâce. C'est pour cette raison que je vais garder mes yeux fixés sur ce qui est invisible. Eh bien, alors que j'ai une vie très pratique avec des responsabilités au quotidien, avec les deux pieds sur terre, il faut avoir les yeux fixés sur ce qui est invisible. En plus d'un engagement solide avec Dieu et de garder vos yeux fixés sur ce qui est invisible, il y a un troisième principe. Si vous échouez, n'abandonnez pas. Un des pièges les plus subtils du diable, c'est de vous dire « t'es bon à rien ». Il vaut mieux laisser tomber puisque de toute façon, Dieu t'a déjà laissé tomber. Ne le croyez pas, c'est le menteur. Dans Psaume 37, versets 23-24, David écrit ceci. « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » S'il vous plaît, souvenez-vous de cela, si vous tombez, vous ne serez pas entièrement terrassé parce que l'Éternel tient votre main. David savait cela. Il était tombé de façon terrible et tragique dans l'histoire avec Bathsheba, mais Dieu lui pardonna et le releva. Donc il pouvait dire à partir de sa propre expérience, même quand vous tombez, n'abandonnez pas, Dieu vous relèvera. Il y a un homme dans le Nouveau Testament qui lui aussi est tombé. Son nom est Pierre. Jésus a parlé à Pierre en sachant qu'il a le régné trois fois. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus n'a pas prié pour ne pas être régné par Pierre, il a prié pour que sa foi ne défaille pas. Voilà ce que Jésus voulait dire à Pierre. Même si tu me renies, ta foi ne défaillera pas. Tu tomberas, mais tu te relèveras. De la même manière, si vous tombez, tendez simplement votre main par la foi et laissez-vous relever par le Seigneur. Mais ne dites pas que tout est fini, car Dieu n'a pas encore perdu l'espoir d'en finir avec vous. Le quatrième et dernier principe, c'est de se souvenir qu'il y a un prix à gagner. Dans cette vie, les affaires et les problèmes ne sont pas tous réglés maintenant. Il y a des choses qui appartiennent au futur. Paul écrit son testament de foi en prison. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est dans 2 Timothée 4. Ces trois choses vont ensemble. Pour garder la foi, il faut combattre le bon combat. La foi est un combat. Vous ne pouvez pas échapper au combat et en même temps vouloir garder votre foi. Il faut combattre le combat pour finir votre course. Paul a fait ces trois choses. Il a combattu le bon combat, il a fini la course et il n'a pas perdu la foi. Mais il ajouta, à partir de maintenant, j'attends la récompense promise. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul était en train d'attendre son jugement, qui serait très certainement suivi d'une exécution. Mais voici ce que Paul voulait dire. Ceci n'est pas le dernier mot, il y aura d'autres jours de jugement, un jour de récompense, et le juge sera alors véritablement juste. Le prix que nous allons gagner ne dépendra pas de notre vitesse, mais plutôt de la fidélité et de la persévérance avec laquelle nous aurons servi. Si nous résistons dans l'épreuve, nous en sortirons purifiés, un peu comme de l'or épuré par le feu. Donc il y a ces quatre principes. Il faut avoir le cœur ferme attaché au Seigneur. Il faut garder nos yeux fixés sur ce qui est invisible. Si nous échouons, il ne faut pas abandonner. Il y a un prix à gagner, il y a des choses qui appartiennent au futur. Que ces paroles puissent vous aider dans la vie de tous les jours sur le chemin qui va vers le Seigneur. Amen.